On continue un peu, si vous voulez, ce que nous avons entamé depuis le dimanche de l'orthodoxie. Vous vous souvenez, le dimanche de l'orthodoxie, je vous ai présenté un aspect de ce qu'on peut appeler l'hérésie ou les hérésies contemporaines, bien que ce n'était pas directement des hérésies théologiques, mais c'était d'un état d'esprit que je voulais stigmatiser. Et ensuite, nous avons vu comment, au moment du dimanche de Saint-Grégoire Palamas, comment le but de notre vie était de recevoir l'Esprit Saint et de cheminer vers la transfiguration en vue de la déification. Dimanche dernier, la Sainte Croix illuminait non seulement notre dimanche de résurrection, mais illuminait le carême du début à la fin, étant à la mi-temps. Et comme elle illumine évidemment toute notre vie du début de notre conception à notre résurrection. Et aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Jean Climaque. Dimanche dernier, je vous présentais la croix comme objet d'espérance et montrer comment notre vie dans l'Église est une vie d'espérance. Et Saint Jean Climaque, je ne vous ai pas encore tout dit, Saint Jean Climaque vient nous montrer que comment l'espérance est satisfaite, comment l'espérance est active dans nos cœurs, à travers notamment son livre qui lui a donné son nom, L'Échelle. L'échelle de Saint Jean, Climax. Climax veut dire échelle. Dans cette œuvre, qui est une reprise de tout ce qui lui avait été enseigné par son père spirituel quand il est entré au monastère, quand il a été initié par son père spirituel, et il explique en même temps dont il a eu l'expérience, ce qui est sa vie. Un aspect, c'est qu'il montre la voie à suivre, les degrés, les échelons que l'on peut suivre et que l'on suit tous d'une manière ou d'une autre, mais c'est bien de les systématiser pour en arriver en haut de l'échelle, comme dans l'échelle de Jacob, le lieu où l'échelle repose sur le ciel, c'est-à-dire nous amène à la communion avec Dieu et à la vie éternelle. L'échelle de Saint Jean Climaque, ou l'œuvre de Saint Jean Climaque, nous montre que l'accomplissement des promesses divines est la part que nous pouvons prendre à notre propre conversion, notre participation, notre collaboration à Dieu pour notre salut dépend, ou pour les où il est indispensable pour ce salut, il est indispensable de passer, comme nous le disions dimanche, par la croix et la résurrection, mais qui se manifeste par nous pour nous par un choix de jeûne et de prière. C'est encore ce que nous disait l'évangile de ce matin, si je me trompe pas, qu'il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et par la prière. Le jeûne et la prière sont deux éléments fondamentaux de notre vie chrétienne. D'une part, parce que le salut ne devient pas uniquement de notre ne concerne pas uniquement notre esprit, mais aussi notre corps, bien que ce ne soit pas le corps qui aille dans le royaume des cieux, le corps physique. Mais dans notre Dieu nous a créé corps et esprit, et ce sont les corps et l'esprit qui sont des moyens, qui sont les outils que l'on peut utiliser pour faire venir la grâce de Dieu en nous, pour laisser la grâce de Dieu pénétrer en nous, et ainsi nous laisser nous spiritualiser, nous laisser nous acheminer vers le corps spirituel dont parle le Saint Paul, qui lui est appelé à aller dans le royaume des cieux. Et et la prière est une activité intérieure, alors que le jeûne est une activité, ou une non-activité, si vous préférez, du corps. Le corps participe aussi à notre salut. De deux manières, de plusieurs manières. D'une part, en étant un effort, en montrant que l'homme ne se nourrit pas simplement de nourriture charnelle, mais se donne faim de manger une autre nourriture, une nourriture spirituelle. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, le deuxième aspect. Oui. Et qui plus est, par le jeûne, on apprend à renoncer à quelque chose qui nous est nécessaire d'une part, quelque chose qui peut nous être agréable, suivant la qualité de la cuisinière, du cuisinier, mais qui de toute manière nous allèche. On a tous envie de manger des bonnes choses, ou d'en manger une grande quantité. Et le renoncement par le jeûne est un apprentissage pour nous permettre de renoncer à des choses plus profondes, plus subtiles, plus fondamentales. On ne peut pas, étant donné notre constitution, on ne peut pas lutter contre les passions, renoncer à nos passions, si on n'apprend pas, comme un exercice, d'où vient le mot ascèse d'ailleurs, par l'exercice du renoncement à certaines nourritures ou à la nourriture, suivant et comme l'Église, pour nous initier à cela, a codifié en quelque sorte avec une suite d'une expérience plus que bimillénaire, puisque le jeûne nous vient déjà de l'Ancien Testament et dans beaucoup d'autres religions d'ailleurs. L'absence elle a codifié, pour faciliter la tâche, des règles, on peut les appeler comme ça maintenant, des règles de jeûne. D'autant plus que ces règles de jeûne sont les mêmes pour toute l'Église. Et en jeûnant, comme l'Église le prescrit, n'est pas simplement comme nous on aurait envie de le faire, en jeûnant comme l'Église le prescrit, ça nous met en communion les uns avec les autres. Quand pendant le carême, on ne mange pas tout ce que vous savez qu'on ne mange pas, de viande de laitage, d'autres choses, nous faisons comme ça, mais les orthodoxes du Japon, les orthodoxes sur la banquise, tous jeûnent de la même manière, ou sont censés jeûner de la même manière. Ça montre une communion qui est un préalable à la communion spirituelle dans le corps du Christ par la communion eucharistique. Et puis, le jeûne ainsi que la prière, le jeûne fécondé par la prière, nous apprend, c'est ce que nous montre Saint Jean Climaque, nous amène non seulement au renoncement de la nourriture, mais à tout renoncement, car pour accueillir la grâce de Dieu qui nous mène à l'union à lui, il faut bien sûr que nous apprenions à renoncer à nous-mêmes de manière à nous décentrer de soi-même pour nous centrer sur une autre personne qui est le Christ. Il faut que nous apprenions à abandonner notre volonté propre pour faire la volonté de l'autre. D'abord le Christ, évidemment, qui se manifeste qui se manifeste à peu près tout le temps par l'obéissance, mais pas l'obéissance uniquement de type monastique à son ou à sa supérieure, mais une obéissance à toute autre personne. Obéissance éclairée, évidemment, intelligente. Si quelqu'un me demande d'aller me jeter dans la Vézère, je n'ai pas le devoir de lui obéir, bien sûr. De manière à ce que nous devons apprendre à préférer la volonté de l'autre ou le bien-être de l'autre plutôt que son bien-être à soi. C'est se décentrer comme ça sur l'autre, donc sur le Christ. Et là, avec le jeûne et la prière, donc débouche sur l'obéissance et tous que nous tous nous avons à pratiquer. Et c'est une des efforts fondamentaux que nous pouvons et nous devons demander, et au début exiger même des enfants. La première éducation, c'est de leur apprendre à obéir, non pas par discipline, pour pas se mettre les doigts dans le nez quand ils sont à table, et pas mettre les pieds sur la table non plus pendant et d'autres choses, c'est pas le seul exemple. Parce que la structure leur esprit se structure avec en apprenant à ne pas faire uniquement, à ne pas faire ce qu'ils veulent, mais ce que d'autres veulent. Et l'obéissance, pour les enfants, par exemple, la confession doit se porter en premier lieu sur la qualité de l'obéissance. Parce que elle conditionne après toute notre vie, toute notre relation avec Dieu et bien sûr avec les autres. Ce renoncement, cette obéissance conduit naturellement, enfin naturellement et spirituellement, parce que la prière est là pour spiritualiser notre vie. Et elle nous amène à participer à l'épanouissement de la grâce que nous avons reçue au baptême. Au baptême, nous recevons le germe de la présence de l'Esprit-Saint en nous, et par le jeûne et par la prière, donc à travers l'obéissance et tous les degrés que nous présente Saint Jean dans son échelle. Nous répondons en quelque sorte, nous répondons et nous arrosons par notre bonne volonté, par notre volonté bonne cette fois-ci, notre volonté juste, nous assistons, nous participons à l'éclosion, à la maturité de la grâce du Saint-Esprit qui est en nous. Et cela débouche naturellement et surnaturellement par la grâce de Dieu. Débouche sur la charité, qui est l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Or, vous savez, parce que c'est notre expérience à tous les hommes, nous savons que l'amour de l'autre n'est pas toujours facile et demande évidemment un renoncement, puisque le véritable amour, c'est de préférer la volonté ou l'être de l'autre à sa volonté à soi. Donc ça passe par la croix, certes, par le renoncement, mais ça crée cette relation d'un don de soi à l'autre qui est l'authentique charité, laquelle n'est qu'une imitation, n'est qu'une participation à l'amour que Dieu nous donne. Et si nous apprenons à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur la personne du Christ, de manière à ce que ce soit pas nous, que ce ne soit pas moi qui vive, pour reprendre l'expression de saint Paul, mais que ce soit le Christ qui vit en moi, ça fait que, à force de travailler moi-même, nous-mêmes, dans cette voie, peu à peu, nous apprenons à ce que ce soit le Christ qui aime à travers chacun de nous, et que le Christ aime les autres. La charité qui est la nôtre doit être la charité du Christ qui transparaît dans nos personnes. Et c'est ça que Saint Jean Climac nous montre dans son échelle. Et ceci n'est pas son échelle, je veux dire, n'est pas réservée aux moines. C'est les fondements de ces degrés, de cette évolution-là, c'est pour toute vie chrétienne, moines ou laïcs. Saint Jean s'adresse à des moines, évidemment, puisqu'il était au désert du Sinaï, où certains sont allés quelquefois, mais ce sont des principes qui sont pour toute vie spirituelle chrétienne, et c'est absolument, absolument fondamental. Et dimanche prochain, nous aurons l'exemple de sainte Marie l'Égyptienne, qui elle aussi a mis toute son espérance, malgré son péché, toute son espérance dans la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle s'est retirée au désert. Mais ça, c'est une histoire dont on parlera dimanche prochain.